Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience.
Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Nous retrouvons Noémie Klein et son gros pavé à balancer sur le capitalisme. Tout peut changer. Alors aujourd'hui, on va peut-être faire un survol un petit peu plus souriant de ces 700 pages impressionnantes. Gaz de schiste, oui, mais pas chez moi. La course frénétique du capitalisme derrière le profit des énergies fossiles ouvre depuis une dizaine d'années ses chantiers destructeurs et empoisonnés aux portes et dans les territoires occidentaux jusque-là protégés. La colonisation capitaliste avait jusqu'à présent exploité, vandalisé et sacrifié exclusivement les terres et les peuples éloignés de ces résidences confortables et feutrées. Mais les mines s'épuisent et les peuples empoisonnés protestent et luttent et gagnent même parfois. Comme Canal Sud vous en a déjà parlé à propos du delta du Niger et des peuples Ogoni et Ijao au Nigeria saboté. Alors on cherche et on trouve de nouveaux filons et de nouvelles techniques qui permettront de rassurer les actionnaires des industries pétrolières, gazières et nucléaires. Où ça? Un peu partout. En pleine mer, tant pis pour la barrière de corail qui se meurt, ou pour les îles et côtes grecques qu'on assassine, éloignant du même coup les ressources vitales que le tourisme apportait à ce pays pauvre. Tant pis pour les Grecs. La BCE l'a bien dit, s'ils sont pauvres, c'est de leur faute. Alors, détruire leur paysage et leurs revenus, c'est pas grave, c'est même légitime, pour que notre confort énergivore perdure. Et tant pis pour les gaz à effet de serre. Après nous, le déluge. Thank you. la barrière de corail. C'est loin. On s'en passera. Et les populations avoisinantes, ils sont même pas blancs. Alors vous pensez? On se rappelle du sort fait à l'île de Nauru, dont on parlait dans la récente émission sur l'extractivisme, toujours inspiré et même piraté de l'œuvre de Naomi Klein. Le fonctionnement, dit-elle, d'une économie fondée sur des sources d'énergie dont l'extraction et le raffinage émettent inéluctablement des contaminants, a toujours exigé la désignation de zones sacrifiées, où vivent de vastes groupes d'individus traités en sous-humains, ce qui, d'une certaine manière, rend leur empoisonnement acceptable au nom du progrès. Pendant très longtemps, toutes les zones sacrifiées ont partagé un certain nombre de caractéristiques communes. Endroits pauvres, situés à l'écart, habités par une population privée d'influence politique, généralement en raison de son origine ethnique, de sa langue ou de sa classe sociale. Des gens qui vivaient en ces lieux maudits se savaient considérés comme des bons à rien. Paola Swearengin, militante issue d'une famille de mineurs de Beckley, petite ville d'une région de Virginie-Occidentale, dont les montagnes ont vu leurs cimes décapitées par les mines de charbon, résume ainsi leur situation. « Nous vivons au pays des âmes perdues. » Par diverses prouesses empreintes de déni et de racisme, il était possible pour les privilégiés d'Amérique du Nord et d'Europe de boucler mentalement ces lieux funestes en les considérant comme des arrière-pays, des terres en friche, des nulle part, ou pire encore, tels Nauru, des endroits au milieu de nulle part. Ceux dont je suis, et vous aussi, qui avaient la chance de vivre à l'extérieur de ces cloaques, avaient l'impression que leur propre milieu, les endroits où ils habitaient et prenaient leurs vacances, ces présumés quelque part, ces centres, ou mieux encore, ces centres du monde, ne seraient jamais sacrifiés à la bonne marche de l'industrie des combustibles fossiles. Jusqu'à tout récemment. Cette situation était présentée comme la bonne affaire de l'ère du carbone. Les personnes qui profitaient des bienfaits de l'extractivisme pouvaient prétendre en ignorer les coûts tant que les zones sacrifiées restaient soigneusement dissimulées à leur regard. En moins d'une décennie d'exploitation frénétique, l'industrie de l'extraction a rompu cette convention tacite. Très rapidement, les zones sacrifiées se sont étendues, englobant de plus en plus de territoires et touchant nombre de gens qui s'étaient crus à l'abri. En outre, les plus vastes de ces zones nouvellement sacrifiées sont souvent situées dans des pays parmi les plus riches et les plus puissants du monde. Daniel Yergin, consultant en énergie et auteur de l'essai « Les hommes du pétrole », cède à l'euphorie lorsqu'il compare la mise au point de techniques permettant d'extraire du pétrole des formations de roches étanches, généralement du schiste, à la découverte de nouveaux pétro-états. C'est comme si on ajoutait un autre Venezuela ou un autre Koweït, sauf que ces réservoirs étanches se trouvent aux États-Unis. Il va sans dire que le sacrifice n'est pas imposé aux seules collectivités vivantes à proximité de ces nouveaux gisements. On extrait aujourd'hui tellement de pétrole aux États-Unis ou en Amérique saoudite, comme le disent certains observateurs, que le nombre de wagons-citernes a augmenté de 4111% en 5 ans, passant de 9500 en 2008 à environ 400 000 en 2013. Dans ce contexte, il n'est guère surprenant que plus de pétrole ait été déversé lors d'accidents ferroviaires en 2013 que sur l'ensemble des 40 années précédentes, et que les journaux télévisés montrent de plus en plus souvent des images de trains dévorés par les flammes. Concrètement, ça signifie que des centaines, voire des milliers de villes et de villages se sont soudain retrouvés sur le trajet des bombes pétrolières. Ces trains mal entretenus, soumis à une réglementation déficiente. Prenons par exemple la ville québécoise de Lac-Mégantic, où en juillet 2013, un train de 72 wagons-citernes plein de pétrole, de schiste, de bacon, plus inflammable que le pétrole ordinaire, a explosé, tuant 47 personnes et rasant la moitié d'un centre-ville pittoresque. L'ex-gouverneur du Dakota du Nord, George Sinner, a déclaré que les trains transportant du pétrole constituent une menace insensée. Peu de temps après que l'un d'eux eut explosé près de sa ville natale de Castleton. Thank you. Pendant ce temps, l'exploitation des sables bitumineux de l'Alberta connaît une croissance si rapide que l'industrie verra bientôt sa production dépasser la capacité des oléoducs. Voilà pourquoi elle est tellement déterminée à promouvoir des projets comme Keystone XL aux États-Unis, Northern Gateway en Colombie-Britannique et Energy East dans l'Est du Canada. Si quelque chose m'empêche de dormir la nuit, c'est bien la crainte de nous voir enclavés dans une mer de bitume, déclarait en juin 2011 Ron Lippert, ministre de l'économie, de l'énergie de l'Alberta. Cependant, ces oléoducs affecteraient une multitude de collectivités établies le long des milliers de kilomètres traversés ou dans les vastes zones littorales dont les eaux deviendraient encombrées de pétroliers flirtant avec la catastrophe. Désormais, nul endroit ne semble inaccessible et aucune activité d'extraction ne convoite plus de territoire que la fracturation hydraulique du schiste. Au cours des deux dernières années, nous avons découvert l'équivalent de deux Arabies saoudites sous forme de gaz naturel aux États-Unis. Pas une, deux, affirmait en 2011 Aubrey McClendon, PDG de Chesapeake Energy. C'est pourquoi l'industrie entend fracturer partout où elle pourra. Les schistes de Marcellus, par exemple, s'étendent sous de vastes portions de Pennsylvanie, d'Ohio, de l'État de New York, de la Virginie occidentale, de la Virginie et du Maryland. Et il ne s'agit là que d'une couche de roche riche en méthane parmi d'autres. Selon le républicain Rick Santorum, l'aboutissement du processus consisterait à forer partout. Et ça se voit. Les sociétés d'énergie ont creusé des puits sur les terrains d'église, sur les terrains des écoles, sur des lotissements résidentiels protégés, rapporte Suzanne Goldenberg dans The Guardian. En novembre dernier, une société pétrolière a aménagé un puits sur le campus de l'Université North Texas à Denton, juste à côté des cours de tennis, en face du stade sportif et d'un parc d'éoliennes géantes. La fracturation est aujourd'hui pratiquée sur un territoire si vaste que, selon une enquête publiée en 2013 dans le Wall Street Journal, plus de 15 millions d'Américains vivent à moins de 2 km d'un puits creusé depuis l'an 2000. Thank you. Oui, mais ces nouveaux sabotages ne suffisent encore pas. Alors, après la Virginie, la Colombie, le Maryland et le Canada, en avant jusqu'en Grande-Bretagne, dont la moitié est soumise à l'étude pour la fracturation hydraulique. Ces habitants du Nord-Est découvrent que leur région est considérée comme inhabitée et désolée, ce qui en justifie le sacrifice d'après la déclaration à la Chambre des Lords de Lord Howell, ancien conseiller de David Cameron. Assurément, dans une zone du Nord-Est où l'espace ne manque pas pour la fracturation, une zone très éloignée de toute résidence, on pourrait la pratiquer sans aucune menace pour l'environnement rural. Le réveil s'avère brutal pour une multitude de citoyens appartenant à des milieux historiquement privilégiés, qui connaissent soudain un sort comparable à celui que subissent depuis très longtemps les collectivités vivant sur les lignes de front. Comment est-il possible qu'une lointaine entreprise puisse s'installer dans mon milieu et exposer mes enfants à des risques sans jamais m'en avoir demandé la permission? Comment peut-elle légalement rejeter des produits chimiques dans l'air à un endroit où elle sait que des enfants jouent? Comment se fait-il que l'État, au lieu de me protéger contre une telle agression, envoie la police matraquer des gens dont le seul crime consiste à tenter de protéger leur famille? En causant de si désagréables surprises, le secteur des combustibles fossiles s'est fait beaucoup d'ennemis chez ses alliés d'autrefois, comme cet éleveur de bétail du Dakota du Sud, John Horter, qui s'est adressé aux tribunaux pour empêcher TransCanada d'enfouir un segment de l'oléoduc Keystone XL sous son terrain. « Je me suis jamais considéré comme écolo, mais si c'est comme ça qu'on doit m'appeler maintenant, j'assume », a-t-il confié à un journaliste. L'industrie s'est aussi aliénée des gens comme Christina Mills, qui a passé l'essentiel de sa carrière à travailler comme comptable dans les sociétés pétrolières d'Oklahoma. Quand une société gazière a entrepris des opérations de fracturation dans son lotissement du nord du Texas, son regard sur l'industrie a changé. « Le problème, c'est qu'ils sont venus chez nous, dans notre voisinage, à moins de 100 mètres de notre clôture. Quelle intrusion !» En février 2014, les opposants de longue date à l'extraction du gaz de schiste n'ont pu que s'esclaffer en apprenant que nul autre que Rex Tillerson, PDG d'ExxonMobil. Rex Tillerson, PDG d'ExxonMobil, avait pris part, en toute discrétion, à une poursuite judiciaire visant à empêcher des opérations de fracturation à proximité de sa résidence texane, arguant qu'elle ferait chuter la valeur de celle-ci, estimée à 5 millions de dollars. J'aimerais souligner officiellement l'adhésion de Rex à l'Association des citoyens qui détestent être encerclés par les forages, a écrit d'un ton moqueur le parlementaire démocrate du Colorado, Jared Polis. Ce groupe sélect de gens ordinaires se bat depuis des années pour la protection de la valeur de leur propriété, de la santé de leurs concitoyens et de leur environnement. Nous sommes enthousiasmés par l'arrivée dans notre groupe en plein essor du PDG d'une importante multinationale du gaz et du pétrole. Thank you. Beaucoup ont la bonne fortune de vivre à l'écart des lieux de désolation, écrivait Thomas Paine dans son séditieux pamphlet de 1776, Le sens commun. Une chose est sûre, l'écart se rétrécit, et bientôt plus personne ne sera à l'abri des calamités de l'écocide. Dans un sens, le nom de la société qui a cristallisé l'opposition aux activités minières en Grèce en dit long. Eldorado, qui fait écho à la légendaire cité de l'or dont la quête avait amené les conquistadors à perpétrer des massacres parmi les plus sanglants de l'histoire des Amériques. Cette forme de pillage n'était autrefois infligée qu'aux contrées non européennes, et le butin était emporté dans la métropole. Mais comme le montrent les activités d'Eldorado dans le nord de la Grèce, les conquistadors d'aujourd'hui ne s'encombrent pas de telles réserves. Ce faisant toutefois, ils commettent peut-être une grave erreur stratégique. Chaque puits de fracturation, aménagé près d'une prise d'eau municipale, et chaque train de charbon traversant une petite ville, donnent aux collectivités concernées des raisons de détester l'industrie des combustibles fossiles. En ignorant cette réalité, les sociétés pétrolières et gazières sont peut-être en train de creuser leur propre tombe politique, estime l'écrivain et militant écologiste Nick Engelfried du Montana. Quoi qu'il en soit, la répartition des problèmes environnementaux n'est pas pour autant devenue équitable. Les populations historiquement marginalisées du Sud, tout comme les minorités visibles du Nord, ont encore une probabilité beaucoup plus grande de vivre en aval d'une mine, à quelques pas d'une raffinerie ou près d'un oléoduc, et sont nettement plus exposées aux effets de la crise du climat. Cependant, en matière de sources d'énergie extrême, l'existence de zones sacrifiées, bien dissimulées, appartient au passé. Nous sommes tous dans le même bateau, en train de couler. Mais les gens de couleur sont plus proches du vortex, lance avec à propos l'avocate Dehun Ferris, qui a collaboré avec le Lawyers Committee for Civil Rights Under Law. Un autre phénomène qui brouille les frontières, le dérèglement climatique, bien sûr. Bien que beaucoup aient la chance de vivre dans des régions encore épargnées par la course folle aux combustibles fossiles, personne n'est à l'abri des conditions météorologiques de plus en plus difficiles et du stress de savoir que nous pourrions vieillir et nos enfants grandir dans un climat nettement plus traître que celui d'aujourd'hui. À la manière du pétrole qui, à la suite d'un déversement, se répand dans les milieux humides, sur les plages, sur le lit des rivières, au fond de l'océan, en contaminant le cycle de vie d'innombrables espèces, les zones sacrifiées que crée notre dépendance aux combustibles fossiles sont en train de s'étendre, telles des ombres menaçantes, à toute la planète. Après 2 siècles d'une prétendue mise en quarantaine des dommages collatéraux de cette habitude malsaine, lesquels, en fait, ont été transférés à autrui, la récréation est terminée. Désormais, tout le monde est en zone sacrifiée. Les victimes s'organisent, non seulement chez elles, mais conjuguent leur lutte, d'Afrique en Équateur et d'ailleurs. Elles créent l'Holy Watch International et Chevron a perdu la bataille en Équateur et la Shell au Nigeria. Et le mouvement mondial pour laisser le pétrole sous terre prend de l'ampleur dans le discours anti-extractiviste. À mon humble avis, il est grand temps de prendre votre carte pastel. Merci de votre écoute. La prochaine fois, ça sera un peu plus optimiste, puisque Naomi Klein vous parle d'amour, d'amour sauveur de la planète.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience.
À bientôt, et vous pourrez retrouver tout ça, bien sûr, comme d'habitude, sur www.canalsud.net. rubrique chroniqueur au contre-histoire. À très bientôt donc.